Jean-Louis Laville est sociologue, professeur au CNAM, au Centre national des arts et métiers. Il est également un des principaux représentants en France de la sociologie économique. Et puis, plus généralement, il est l'animateur, à l'échelle mondiale, un des principaux animateurs des courants d'économie solidaire, qui essaie de penser des rapports entre le marché, le don et la redistribution étatique. Jean-Louis.
Merci. Je vais donc essayer d'aller, de continuer dans la direction ouverte cet après-midi par Kiss, en prenant au sérieux ce que dit Alain à l'instant, c'est-à-dire que je pense que nous sommes ici tous prenant au sérieux la conclusion énigmatique à certains égards de l'essai sur le don. Et donc je vais m'inscrire dans une perspective de sociologie économique ou d'économie politique, et peut-être, du moins je l'espère, apporter quelques éléments de réponse à la question qui était posée à l'instant par Luis Cardozo. Donc cette contribution se propose de souligner l'incomplétude du débat économique qui, depuis un siècle, repose sur l'opposition et la complémentarité de l'État et du marché. L'hypothèse est que pour relever les défis qui sont ceux de la mutation et de la crise actuelle, il est nécessaire d'intégrer à la réflexion un troisième pôle, celui de la solidarité, de la société civile, en particulier à travers l'associationnisme, et que pour ce faire, l'œuvre de Mauss nous aide beaucoup. L'associationnisme peut être abordé comme l'ensemble des actions collectives ayant pour but la lutte pour l'égalité et qui sont de ce fait génératrices de socialisation démocratique. Très souvent, l'associationnisme a été appréhendé en tant qu'effervescence collective, dont la Commune de Paris, la République catalane ou la révolte hongroise sont des manifestations emblématiques. Mais l'associationnisme n'est pas que surgissement vite oublié. Il est porteur d'une volonté d'inscription dans la durée par la construction d'institutions à orientation économique. On peut donc dire que l'associationnisme est un questionnement en acte des articulations entre sphères politiques et économiques. De ce point de vue, l'apport de Mauss peut être abordé très succinctement autour de quatre points clés. Ces quatre points clés montrant, me semble-t-il, la profonde cohérence entre les écrits théoriques et les écrits politiques de Marcel Mauss. Les deux premiers points clés sont des points plutôt critiques, où Mauss se prononce contre l'association comme système et contre l'étatisme. Les deux autres points renvoient plutôt à ce qu'on pourrait appeler l'aspect possibiliste de la pensée de Mauss, quand il se prononce pour un institutionnalisme et pour un changement social démocratique. Tout d'abord donc sur contre l'association comme système. L'associationnisme s'est développé sur les continents américains et européens, par exemple, dès le début du XIXe siècle, comme un prolongement de la dynamique démocratique dans les rapports sociaux, grâce à une multitude d'expériences passant par l'action collective et la prise de parole. On peut faire référence, en passant pour ce qui est de la France, au beau livre de Jacques Rancière et Alain Faure qui recueille les paroles ouvrières de cette période. Mais en même temps, cet associationnisme s'inscrit dans la recherche d'une unité originelle et perdue et, comme va le dire David Graeber tout à l'heure, d'un communisme primitif. L'associationnisme, qui est expression de conflictualité liée à l'exigence d'égalité, est alors surinvesti dans la perspective d'une société réconciliée où l'association aura remplacé l'intérêt. Ceci est renforcé par l'organicisme, où la société est pensée comme corps qui considère les relations sociales comme des phénomènes physiologiques, et renforcé par le positivisme avec son fantasme d'une société indivise résultant de l'application de principes scientifiques. L'écart entre les réalisations associationnistes et l'espoir placé en elle devient béant. Et cela va aboutir progressivement, avec la répression qui s'installe dans plusieurs pays à partir de la moitié du XIXe siècle, à l'invalidation des expériences, progressivement, alors que ce qui pose problème, c'est peut-être cette visée d'un système totalisant à travers l'association, c'est peut-être cette mythologie que Proudhon dénonçait déjà, cette mythologie de la grande association. Et justement, Mauss a vite abandonné l'idée d'une société sous l'empire d'un principe unique, fût-il associatif. Il s'est démarqué de la conception de Charles Gide, par exemple, sur la République coopérative, et il a de plus en plus défendu au fil du temps l'idée que l'association vaut comme modérateur de l'individu et de l'État, pour autant qu'elle puisse s'auto-limiter. C'est donc progressivement la pluralité conflictuelle des logiques et formes socio-économiques qui s'affirme dans l'œuvre de Mauss contre l'appel à un principe unique. Il rappelle que toute société est un complexe d'économies souvent opposées. Deuxième point en lien avec le premier, après l'association contre l'association comme système, Mauss est également très fortement contre l'étatisme. L'étatisme a d'ailleurs pris sa force sur les réactions aux attentes trop fortes vis-à-vis de l'association, et vers la fin du XIXe siècle, le progressisme social s'identifie de plus en plus à l'intervention d'un État social relayant l'association pour réaliser l'idéal fraternitaire. Cette occultation qui se renforce avec le temps de l'associationnisme est condamnée par Mauss. C'est ce qu'il appelle le fétichisme politique, la clairvoyance excessive en la capacité transformatrice de la loi. Pour Mauss, la loi est impuissante si elle n'est pas supportée par les mœurs ou ne se modèle pas sur les pratiques sociales suffisamment fortes. Comme il le dit, la loi ne crée pas, elle sanctionne, elle peut rehausser les pratiques sociales, elle ne peut pas inventer un monde social. Ce que nous révèle par ces mots Mauss, c'est que derrière l'opposition structurante au XXe siècle entre réforme et révolution, il y a un accord implicite sur l'étatisme, partagé par la social-démocratie et le bolcheviste, d'une certaine façon, puisque dans les deux cas, l'État est devenu le seul rempart pour cantonner le marché en ce qui concerne la social-démocratie, ou la seule arme pour le détruire en ce qui concerne le bolchevisme. Mauss nous indique donc que l'étatisme est une illusion progressiste, mais il montre aussi que l'associationniste ne peut pas être réduit à l'instauration de propriétés collectives et que ce qui fait la force de l'associationnisme, c'est qu'il relève de l'action publique. On en vient donc aux aspects plus possibilistes de la pensée de Mauss et en particulier la façon dont il se prononce pour l'institutionnalisme. Il pose en fait l'hypothèse, qui sera reprise par des auteurs comme Beck plus récemment, d'une alliance entre pouvoir public et société civile contre la démesure du capital. Ce qui suppose que, contre l'étatisme, la force instituante de la solidarité soit réhabilitée. La solidarité ne peut pas être perçue et appréhendée uniquement comme une redistribution publique. Elle doit être éprouvée dans des actions collectives de lutte contre les inégalités. Et on retrouve l'une des figures, peut-être, de ce que Marcel Hennaff appelait ce matin le don solidaire pour ceux qui sont dans le besoin, mais avec la particularité que ceux qui sont dans le besoin sont inclus dans l'action qui va leur permettre de répondre à ce besoin, qu'ils sont inclus dans le domaine public. C'est de leur mobilisation collective qu'est attendue au moins partiellement la résolution de leurs difficultés. À cette figure du don solidaire doit donc s'articuler une facilitation par l'intervention publique et non pas un étatisme. Cette intervention publique doit être moins une simple redistribution aux bénéficiaires qu'une protection apportée aux formes d'auto-organisation d'une société œuvrant pour la justice, où on retrouve là les réflexions sur le droit social de Gurvitch, mais aussi, je pense, un certain nombre de positions défendues par Paulo Henrique Martins au Brésil aujourd'hui. Ce qui est en jeu, c'est non pas le retrait de l'intervention publique, mais la définition d'une autre modalité de l'action publique. À partir du moment où, depuis quelques décennies, dans des domaines diversifiés, commerce, épargne, consommation, services et réseaux d'échange, actions culturelles, se sont manifestées et affirmées des actions qui ont des finalités solidaires, réduction des différences sociales, préservation de la diversité culturelle, préservation de l'environnement, on a donc une actualité particulièrement forte de la pensée de Mauss, qui insiste sur la construction d'institutions susceptibles de préserver l'existence de dynamiques solidaires effectives. Ce qui est bien évidemment lié au quatrième point, c'est-à-dire son refus du volontarisme politique qui va avec le refus de l'étatisme. Dans l'appréciation sociologique du bolchevisme, il met en fait l'accent sur comment un changement social doit être pensé de manière démocratique, Et à partir de cela, évidemment, il insiste à nouveau sur des systèmes de régime d'économie, hein, c'est-à-dire il montre comment aucune société ne peut être complètement capitaliste, mais les sociétés réelles sont à dominante capitaliste, et comment celles-ci peuvent évoluer dans une perspective de socialisation progressive. Mais cette socialisation progressive, pour ne pas verser dans le totalitarisme, doit se préserver de toute vision d'éradication du marché et doit plutôt se proposer de limiter graduellement la logique d'accumulation des profits. On a donc une visée du changement social démocratique qui est ancrée dans des inventions institutionnelles, dans des pratiques sociales. Et on a donc aussi une interdépendance très forte entre le débat d'idées et les expériences sociales, et non pas la recherche d'application d'un modèle de société qui serait plus rationnel que le capitalisme. C'est cette façon de penser qu'il nous présente, combinant ce qu'il appelle le mouvement du bas et le mouvement du haut, et que l'on pourrait traduire en termes contemporains par une possibilité de coproduction des politiques publiques ou une coopération conflictuelle entre associationnisme et pouvoir public dans une acception élargie de l'action publique qui inclut à la fois l'action citoyenne et l'action des pouvoirs publics. Ce faisant, il plaide également pour une science sociale qui soit ouverte aux émergences. Et là, on peut dire qu'il est aujourd'hui relayé par des sociologues comme De Sousa Santos, par exemple, qui ne condamnent pas les expériences au motif de leurs insuffisances, mais au contraire, sont attentifs à leurs potentialités, qui donnent la priorité à l'action collective sur le déterminisme économique, et qui montrent aussi en négatif que l'une des limites auxquelles s'est confrontée l'association et la coopération, c'est de s'être enfermée dans une définition réductrice, celle d'une entreprise collective, lui faisant abandonner son caractère originel de fait social total. Pour finir, par quelques mots empruntés au beau livre de Sylvain Zimira qui était cité tout à l'heure sur le savant et le politique, il me semble que par cette articulation entre débat d'idées et pratique sociale, Mauss en fait nous éloigne de deux conceptions de la sociologie. La première, c'est cette fausse neutralité axiologique qui avalise en fait l'ordre existant en négligeant les forces instituantes qui expriment la volonté d'un ordre plus juste. Et en même temps, il nous prévient contre une sociologie qui se voudrait purement critique et qui est en fait une sociologie de la dénonciation et de la suspicion qui met l'accent sur les insuffisances des expériences sociales. On peut même se demander si on ne pourrait pas faire un pas de plus et se demander si Mauss ne nous pose pas une question complémentaire, c'est la question de l'auto-organisation de la recherche en elle-même dans ses interdépendances avec les acteurs. Et d'une certaine façon, on pourrait dire que si l'on pense que la solidarité suppose d'être vécue, à ce moment-là, un des moyens de l'intelligibilité des pratiques sociales, c'est peut-être le fait qu'il y ait des possibilités au sein de la recherche d'avoir des formes d'auto-organisation qui autorisent à ce moment-là ce qu'on pourrait appeler des transversalités expérientielles.